Vous écoutez On lit pour vous.
Tomber en amour, un texte de Mariana Mazza, paru le 21 décembre 2025 dans la presse. Une de mes amies m'a récemment confié être tombée en amour. Et je me suis questionnée, le regard vide, sur ce terme qu'on utilise depuis longtemps, à outrance, sans trop y réfléchir. Tomber en amour. Il me semble que quand on dit qu'on tombe en amour, ça fait mal. Ça semble difficile de se relever. La chute se fait de quel étage déjà? Si c'est de tomber en amour qui est censé nous rendre le plus heureux, je n'en ai pas envie. Parce qu'une chute peut être douloureuse, longue, lente et pénible. Moi, j'ai plutôt envie de m'élever en amour. J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me donnera envie de m'envoler. Voler en amour. Hey, Mariana, je me suis envolée en amour. On dirait que ça décrirait beaucoup mieux l'émotion vécue, que ce serait plus juste quant à la beauté de ce sentiment. J'aime m'attarder à des phrases qu'on utilise au quotidien, qui semblent avoir du sens, mais qui, si on y réfléchit comme il faut, sont complètement fautives. Il n'y a pas si longtemps, c'était la première médiatique de mon troisième spectacle, Foie gras. Quelqu'un m'a dit « Je n'ai jamais autant ri de ma vie ». J'étais flattée, mais j'ai aussi trouvé ça triste quand je me suis attardée au côté littéraire de cette phrase. Comment moi, dans mon spectacle d'humour, je peux te faire rire comme jamais? La vie est trop longue pour accorder à une seule personne le pouvoir de nous faire rire comme jamais. J'espère que le quotidien de cette personne est rempli de rire. Il y a de ces phrases qui viennent me chercher et je me mets à accorder une attention trop intense à leur sens littéral. Elles finissent par me hanter longtemps. Comme les gens qui nous disent avec beaucoup d'amour « Ne change jamais ». C'est la plus belle phrase à se faire dire, mais aussi la plus terrible. La vie est une longue suite de changements. Elle nécessite de l'adaptation constante. Il est primordial de changer sans pour autant oublier notre essence. Il faut évoluer, s'adapter aux situations et aux défis qu'on vit. Je ne pourrai de toute façon jamais changer complètement. Le passé existe pour forger l'avenir. Même si je voulais changer, malgré l'argent, le succès et la popularité, le passé me rappellera toujours quelle est mon essence. Je t'aime. Voilà une expression universelle dont on devrait abuser. On devrait la prononcer à profusion, beaucoup plus facilement et librement, même à des étrangers. Il n'y a rien de plus beau que de dire à un être humain « je t'aime ». Pourquoi attendre de rencontrer l'amour de notre vie ou de le dire à quelqu'un qu'on connaît bien? Il faudrait dire « je t'aime » au boulanger qui s'est levé à 5h30 pour pétrir sa pâte et la faire cuire pour nous. Il faudrait dire « je t'aime » au chauffeur d'autobus qui s'assure de notre sécurité et qu'on tient pour acquis. En descendant les marches, le regarder et lui dire « Merci, monsieur, je vous aime. » Parce qu'aimer, c'est ce qu'il nous reste. Au-delà de la réussite, de l'argent et du travail, aimer. Et aimer, ce n'est pas juste de l'amour. C'est la reconnaissance, c'est dire merci avec plus d'artifice, c'est transformer une journée pluvieuse en arc-en-ciel. Aimer, c'est ce qui reste après les larmes, après la guerre, après l'inévitable. Aimer, ça donne les plus belles chansons, les meilleurs films, les plus grandes œuvres. Aimer, c'est tout donner, sans regarder en arrière. C'est ne pas tomber, c'est se soulever dans les airs longtemps, sans regarder en bas. Moi, Mariana, je veux te dire à toi qui lis, je t'aime. Je t'aime de prendre le temps de lire mon texte. C'était « Tomber en amour », un texte de Mariana Mazza, paru le 21 décembre 2025 dans la presse.
éliminer l'acné grâce à des vaccins? Un texte de Pauline Gravel, paru le 14 octobre 2025 dans Le Devoir. De tout nouveaux traitements sont actuellement expérimentés pour soigner, voire prévenir l'acné. Il s'agit de vaccins qui visent les bactéries qui contribuent au développement de cette affection de la peau dont sont victimes 80 % des adolescents et 40 % de la population générale. Le principal facteur qui prédispose au développement de l'acné est la génétique de la personne. À peu près 80 % du risque de faire de l'acné vient de notre génétique. À ce risque génétique s'ajoutent des facteurs hormonaux et parfois des facteurs mécaniques, comme le port d'un casque qui obstrue les pores de la peau. Ou encore, l'application de certains produits cosmétiques, résume la dermatologue Hélène Veillette, qui est professeure de clinique au CHU de Québec, Université Laval. L'acné se développe lorsque les pores à la surface de la peau deviennent encombrés par une accumulation de kératine, cette protéine présente à la surface de l'épiderme et qui contribue notamment à l'imperméabiliser. Concomitamment, les changements hormonaux qui surviennent à l'adolescence induisent souvent une production excessive de sébum par les glandes sébacées sises au fond des follicules pileux et qui servent à hydrater la peau. Or, comme l'ouverture des follicules vers l'extérieur est déjà engorgée par la kératine, le sébum, produit en excès, ne réussit plus à sortir des follicules, ce qui contribue à obstruer les pores et à favoriser leur inflammation. De plus, l'abondance de sébum crée un milieu nutritif idéal à la bactérie Cutibacterium acnes, C.acnes, qui fait partie du microbiome normal de la peau de la plupart des personnes. Elle favorise aussi la prolifération de cette bactérie dans les follicules. Et en digérant le sébum, les bactéries génèrent des acides gras qui stimulent la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires par le système immunitaire. Or, c'est l'inflammation ainsi induite qui va engendrer des lésions typiques de l'acné, telles que des pustules, des nodules ou des kystes. Les dermatologues disposent actuellement de divers traitements. Face à un patient qui a une acné plutôt légère, on va commencer par les traitements topiques qui ont plusieurs mécanismes d'action différents. Certains vont agir principalement sur la kératinisation, tels que les rétinoïdes topiques. D'autres visent la bactérie C. acnes, comme le peroxyde de benzoyle et la clindamycine, explique la dermatologue. Si tout cela ne fonctionne pas, ou si le patient a une acné plus sévère, on va se tourner vers les médicaments oraux parmi lesquels figure la grande classe des antibiotiques ingérés par la bouche comme l'aminocycline et la doxycycline, qui ont un double effet antimicrobien et anti-inflammatoire sur la peau, poursuit-elle. Il y a aussi une isotrétinoïne, du nom commercial Accutane, qui induit la diminution de la production de sébum, mais qui a un peu plus d'effets secondaires quand il est utilisé à haute dose. On a encore des besoins thérapeutiques, car il y a des gens qui ne toléreront pas l'Accutane. Et il y a un groupe de patients pour lesquels on n'a pas grand-chose à offrir, affirme la professeure. De plus, dès qu'on cesse les traitements topiques ou les antibiotiques, l'acné récidive assez souvent. Et il est toujours délicat de poursuivre des traitements antibiotiques en raison de la résistance aux antibiotiques. Les vaccins seront donc bienvenus. On a besoin d'autres outils, c'est certain, lance-t-elle. La société Sanofi Pasteur a lancé en avril 2024 un essai clinique de phase 1 et 2 qui a pour objectif d'évaluer l'innocuité, l'efficacité et l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à déclencher une réponse immunitaire, dont la production d'anticorps, de 3 doses différentes d'un vaccin à ARN messager, ARNm, visant la bactérie C. acnes, cet essai, qui comportera 3 injections intramusculaires, doit compter 260 personnes âgées de 18 à 45 ans qui sont atteintes d'une acné modérée à sévère. Un deuxième essai clinique de phase 1 et 2, mené par Sanofi Pasteur, a débuté en juillet 2025. Celui-ci a pour but d'évaluer encore une fois l'innocuité, l'efficacité et l'immunogénicité de 2 injections du vaccin ARN-M chez 120 personnes présentant une acné légère. Dans un communiqué de presse du 22 novembre 2024, Jean-François Toussaint, directeur de la recherche et du développement des vaccins chez Sanofi, affirmait que ces vaccins visaient à rétablir l'équilibre entre les différents micro-organismes du microbiome cutané et ce, en se servant de la force du système immunitaire. Ce ne sont que des études de phase 1 et 2. À la lumière des résultats obtenus, il faudra évaluer le coût-bénéfice de ce vaccin, prévient la docteure Veillette. Le docteur George Liu, de l'Université de Californie à San Diego, travaille pour sa part sur un vaccin qui serait plutôt préventif que curatif. Son vaccin se compose de fragments d'une enzyme appelée hyaluronidase que la bactérie C. acnes sécrète. Cette enzyme détruit l'acide hyaluronique que la peau produit pour assurer sa protection. Cette destruction permet alors aux bactéries de proliférer davantage. L'injection de ce vaccin à des souris, chez lesquelles on avait reproduit de la peau humaine colonisée par la bactérie C. acnes, a empêché l'apparition d'acné. Cette stratégie, qui vise indirectement la bactérie en induisant la production d'anticorps qui iront neutraliser l'enzyme hyaluronidase sécrétée par la bactérie, s'annonce prometteuse. Reste maintenant à la tester chez l'humain. Avec un tel vaccin, on pourrait donc prévenir l'acné chez quelqu'un qui est à haut risque ou dès qu'apparaît un peu d'acné. Le vaccin éviterait alors que l'acné empire et que se forment des cicatrices, fait remarquer la docteure Veillette. Ces vaccins ne régleront probablement pas tous les types d'acné, mais il devrait aider un grand nombre de patients chez lesquels la C. acnes est centrale dans la physiopathologie de leur acné, croit-elle. C'était « Éliminer l'acné grâce à des vaccins », un texte de Pauline Gravel, paru le 14 octobre 2025 dans Le Devoir.
Violence faite aux femmes autochtones, trop peu d'action du gouvernement, dit le VG. Un texte de Marie-Emma Parenteau, publié le 10 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick dénonce la lenteur de l'appareil gouvernemental pour mettre en œuvre ses engagements visant à lutter contre la violence faite aux filles, femmes et personnes issues de la communauté LGBTQ+, autochtone. Paul Martin en vient à la conclusion que le ministre de l'Égalité des femmes ne dispose pas de système et de pratiques adéquates pour donner suite à un rapport provincial en réponse à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Seuls 10% des engagements ont été complétés. Il soutient que seuls 10% des 39 mesures ont été achevées en 2 ans. Pourtant, toutes les mesures auraient dû être réalisées entre 2023 et 2025. Certaines de ces mesures porte sur les ressources en matière de violence domestique, les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances et les interventions policières plus efficaces. Selon Paul Martin, trop de temps s'est écoulé et il faut maintenant revoir les engagements pris dans ce dossier. De plus, les comités de surveillance pour analyser la progression de ces mesures, dont l'un est composé de membres des Premières Nations, ne se sont pas réunis depuis le lancement du plan en 2023. Il n'existe donc pas de processus pour évaluer les prochaines étapes à prendre, actualiser le plan ou évaluer son impact, dénonce Paul Martin. Ce plan provincial, intitulé « Tisser nos voies ensemble », prévoit des mesures confiées à plusieurs ministères. Mais c'est le ministère de l'Égalité des femmes qui est chargé de coordonner le tout. C'est pourquoi Paul Martin a décidé d'auditer ce ministère durant la période allant du 1er septembre 2023 au 30 juin 2025. Un manque de ressources. Paul Martin ajoute que le ministère de l'Égalité des femmes s'est vu confier la responsabilité de coordonner la mise en œuvre du plan sans recevoir de fonds supplémentaires. Le gouvernement lui a demandé de fonctionner dans le cadre des affectations budgétaires existantes, écrit-il. Ce manque de ressources humaines et financières peut limiter la mise en œuvre du plan, sa surveillance et l'analyse de son impact. Le vérificateur général note toutefois que 11 nouvelles initiatives ont été lancées, en plus des 39 mesures initiales. Mais comme le plan n'a pas été mis à jour depuis son lancement, il ne tient pas compte de ces nouvelles initiatives. Pas de données sur le nombre de femmes victimes de violences. Le plan provincial contient des mesures visant à réduire la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes autochtones et issues de la communauté LGBTQ+. Toutefois, Paul Martin affirme que le ministère ne dispose pas de données sur le nombre de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées au Nouveau-Brunswick. Sans ces informations, il n'est pas possible de déterminer si le plan réduit la violence. Paul Martin précise que les plus récentes données de Statistique Canada indiquent un taux de violence 6 fois plus élevé chez les femmes autochtones que dans la population générale. Toutefois, le ministère de l'Égalité des femmes précise que la collecte officielle de données sur le nombre de femmes et de filles autochtones victimes de violences par le biais des statistiques nationales et provinciales n'est pas fiable en raison de la suppression de données pour des raisons de confidentialité. 11 recommandations. Le vérificateur général fait donc 11 recommandations au ministère de l'Égalité des femmes que celui-ci a tout accepté de donner suite. Celle-ci inclut un calendrier de réunion pour le groupe de travail chargé d'assurer la mise en œuvre du plan, une analyse des ressources humaines et financières, l'implantation d'un processus qui peut examiner le plan et le mettre à jour, et la création d'indicateurs de rendement pertinents, entre autres. La ministre responsable de l'Égalité des femmes, Lynn Chantal Boudreau, dit avoir déjà rencontré l'équipe du ministère. Nous avons déjà entrepris certaines actions, rencontré différents ministères, aussi pour discuter de la situation et voir aussi comment nos personnes, nos femmes, nos communautés autochtones vont être au centre de ces discussions-là. Le ministère indique aussi qu'il s'engage à une plus grande transparence dans ce dossier, souhaitant publier des rapports sur les mesures prises d'ici juin 2026. De son côté, la porte-parole de l'opposition en matière d'égalité des femmes, Tammy Scott Wallace, se dit très déçu de voir que peu de progrès a été fait dans ce dossier. De toute évidence, le rapport n'a pas fait l'objet d'une attention suffisamment grande et le personnel du ministère est très réduit. C'était « Violence faite aux femmes autochtones, trop peu d'action du gouvernement », dit le vérificateur général. Un texte de Marie-Emma Parenteau, publié le 20 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Procréation médicalement assistée. L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 8 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles. Sélectionner l'embryon le plus prometteur, mieux prévoir les réponses aux traitements hormonaux, raccourcir les délais d'accès à la procréation médicalement assistée. L'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives dans l'aide personnalisée à la conception. Près de 50 ans après la naissance du premier enfant conçu par fécondation in vitro en 1978, citation, « L'intelligence artificielle est là pour nous aider à mieux sélectionner les embryons, en tout cas à mieux déterminer leur potentiel inflammatoire », résume Nathalie Massin, fin de citation, chef du service de procréation médicalement assistée de l'hôpital américain de Paris. Comme d'autres centres de procréation médicalement assistée, l'établissement, qui revendique plus de 2300 fécondations in vitro par an, est équipé d'un embryoscope pour filmer en continu le développement de l'embryon sans le sortir de son incubateur. Citation, dans les centres équipés de ces systèmes d'observation en continu, on acquiert des données qui n'étaient pas forcément observables auparavant. Fin de citation, note la responsable du pôle d'assistance médicale à la procréation de l'Agence de la biomédecine, Anne-Claire Lepêtre. Les données de cette vidéosurveillance de l'embryon, parenthèse, morphologie, symétrie, rythme de division cellulaire, fin de parenthèse, n'était jusqu'ici utilisé que de manière limitée. Intégrer des modules d'intelligence artificielle doit aider les spécialistes à choisir celui qui a le plus de chances de s'implanter ou d'être congelé et réduire ainsi le nombre de tentatives conclues par un échec en écartant les embryons les plus susceptibles de présenter une anomalie et d'aboutir à des fausses couches. Cela sans manipulation sur l'embryon. Décision humaine. Citation, c'est l'humain qui va continuer de décider, mais avec cet outil supplémentaire. Fin de citation, insiste Frida Ntezami, co-responsable du Centre de procréation médicalement assistée de l'Hôpital américain de Paris. L'établissement s'est doté d'une intelligence artificielle de la compagnie israélienne AIVF pour AI, Powered In Vitro Fertilization, en cours de validation en interne dans le but de, citation, diviser par deux le nombre de cycles nécessaires pour obtenir une grossesse. Fin de citation. Autre citation. Ce que va m'apporter AIVF, c'est une probabilité de 70 % que l'embryon qu'elle recommande soit dépourvu d'anomalies génétiques, explique Mme Ntezemi. Un progrès, fin de citation, sachant qu'actuellement, il est admis que la moitié des embryons pré-implantatoires sont génétiquement anormaux. Cela soulève des questions. Que faire des embryons bien notés pour une implantation, mais présentant, selon l'algorithme, une anomalie chromosomique? Peut-on refuser la prise en charge d'une femme dont les chances de parvenir à une grossesse sont jugées extrêmement faibles? Comment valider les modèles sur lesquels la communauté scientifique pourra s'appuyer pour fonder sa décision? L'intelligence artificielle peut aussi aider à ajuster le moment et la dose des injections hormonales pour optimiser la stimulation avant le prélèvement des ovules ou augmenter les chances de trouver un spermatozoïde dans un échantillon où ils sont extrêmement rares. Limiter le yo-yo émotionnel. Les algorithmes sont testés, citation, pour vérifier si les critères d'observation sur lesquels les décisions s'appuient aujourd'hui restent pertinents et si d'autres données pourraient affiner l'analyse, souligne Mme Lepaître. L'enjeu? Diminuer le nombre de tentatives et prendre en charge plus de patientes. Fin de citation. Et comme, citation, malheureusement, la procréation médicalement assistée ne marche pas toujours du premier coup, fin de citation, le fait de renouveler les cycles apporte son lot d'informations nouvelles. Examens biologiques, échographies, réactions aux traitements hormonaux variables d'une femme à l'autre constituent autant de données accumulées pour nourrir les modèles d'intelligence artificielle. Citation, l'analyse de toutes ces informations et de tous ces cycles de toutes ces femmes prises en charge avec les paramètres de leur conjoint ou donneur, ellipse, pourrait apporter des réponses personnalisées et éviter aussi ce yo-yo émotionnel. Fin de citation. Dans ces parcours, citation, longs, complexes et souvent psychologiquement difficiles. Fin de citation. Dans le choix de l'embryon, citation, c'est toujours un expert qui prendra la décision, assure Mme Lepaître. Il y a beaucoup de communication autour de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas capable de tout faire. Fin de citation, tempère Michael Greenberg, gynécologue obstétricien spécialiste de la fécondation in vitro qui exerce à l'AP Trésunion HP. Citation, on a besoin de marqueurs plus pertinents, car ceux relatifs à la morphologie d'un ovule ou d'un spermatozoïde ne suffisent pas. Fin de citation. En 2023, 164 670 tentatives de procréation médicalement assistée ont eu lieu, soit 3 % de plus qu'en 2022, selon l'Agence de la biomédecine. C'était Procréation médicalement assistée, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. Un texte de l'Agence France-Presse, publié le 8 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles.